Hop. Je vais vous demander déjà de vous présenter.
Ouais. Ouais, je vais tenir.
Ok, ça marche. Alors, je m'appelle Mathieu Argot. Je dirige une agence culturelle, artistique à Montpellier qui s'appelle Bipolar.
Ok.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet, Rassembler l'Aiz, je crois, puisque c'est le nom d'une rivière, d'un cours d'eau en tout cas.
C'est ça, le Lez, c'est un fleuve côtier, une trentaine de kilomètres qui traverse Montpellier. La ville s'est appuyée sur ce fleuve pour se construire, comme beaucoup de villes. Et en fait, on a mené un projet d'une une fiction éco-politique qu'on a initié de nous-mêmes en répondant à un appel à projet. On a imaginé un problème. On a dit que le président de la métropole de Montpellier recevait une lettre qui était anonyme, signée au nom du Lez, et qui faisait état de la déconnexion profonde qu'il y avait entre lui et les habitants et les gestionnaires de l'espace naturel, le fleuve. Et il a menacé de faire grève, de ne plus verser une seule goutte d'eau si ses intérêts propres à lui n'étaient pas pris en compte. Il faut savoir quand même que 75% de la métropole de Montpellier, c'est-à-dire 500 000 habitants, boivent l'eau de la source du Lez, qui est un fait unique au monde. Et dans cette fiction-là, on a dit qu'on aime bien jouer à ça. On dirait que le président de la métropole nous confiait cette enquête, puisqu'il y avait un conflit entre un fleuve et ses habitants. Et donc on a mené l'enquête pour comprendre ce qui se passait entre ce fleuve et ses habitants. On a fait des micro-trottoirs, un peu comme là, pour aller demander aux habitants de Montpellier quel était leur attachement, quelle était leur relation, est-ce qu'ils y tenaient à ce fleuve, ou est-ce que finalement, s'il ne coulait plus, ça irait bien. On a fait un plateau radio en direct des berges du fleuve, en s'appuyant sur une radio locale. On est allé questionner des élus, des habitants, des enfants, etc. On a fait une grande fresque aussi sur laquelle s'appuyer pour savoir où les gens allaient se promener, près du Lez, sur ces berges, etc. Et puis après, ensuite, la deuxième année, on a, fort de cette expérimentation-là, on a constitué un comité de négociation avec le Lez, avec une trentaine d'habitants de Montpellier. Et on a essayé de leur apprendre à négocier avec un fleuve. Et donc, on est allé on a imaginé un parcours apprenant. On est allé voir des scientifiques, des techniciens, Régie des Eaux, mais aussi des chercheurs qui travaillent sur la politique de l'eau. Et on est allé demander à quelqu'un de nous apprendre aussi à comprendre ce qu'était que prendre contact, d'être en contact avec un fleuve. Donc c'était une version un peu plus ésotérique, ou en tout cas plus sensible, qu'on a menée là.
J'entends négocier, prendre contact avec un fleuve. D'entrée, c'est le fleuve, c'est une personne.
Oui, d'entrée, il était posé comme une personne, et c'est ce qui nous a permis de poser cette scène nouvelle, un peu, cette politique territoriale un peu nouvelle. On n'est pas en train de réclamer je ne sais pas quoi, ou de protester qu'on ne sait pas quoi, on est juste en situation de négociation. Et donc, parce qu'on trouve que cet état de négociation, en fait, il est plutôt fertile pour comprendre en fait là où on vit, et surtout les grands enjeux aujourd'hui qui sont posés, pas seulement aux politiques mais aussi aux habitants. Mais on n'a pas voulu se séparer des instances de gestion du fleuve, et donc on a à la fin constitué une sorte de cahier de doléances. En tout cas, c'est le groupe, le comité de négociation qui a voulu constituer ce cahier de doléances qu'on a appelé un cahier de recommandations citoyennes pour la restauration des relations entre le Lez et ses composantes humaines. Voilà, et donc là, c'est une sorte de proposition, une liste un peu à la Prévert, qui, comme chaque phrase, commence par « et si ?». Et si on commençait des réunions de la commission locale de l'eau à l'extérieur, près du fleuve ? Et si on cherchait à voir comment représenter ce fleuve, lui donner une voix dans nos instances de gestion ? Et si nos relations avec ce fleuve étaient prises en compte dans les diagnostics, si à côté des diagnostics techniques pour la restauration des rivières, on pouvait aussi y ajouter des diagnostics sensibles, relationnels ? Et si on imaginait une trame relationnelle de nos fleuves et nos rivières ? Et si ? Et donc voilà, cette litanie-là, on l'a réunie dans un cahier qu'on a remis aux politiques ensuite.
Et alors, résultat, comment ça a été entendu ou écouté ?
Mais ça a été plutôt bien entendu et écouté. On a des, il faut savoir que dans le sud de la France, on a des vrais gros soucis d'approvisionnement en eau. On l'a senti en 2021, 2022. On l'a senti dans nos corps. Hein. Il y a certaines communes un peu plus au sud où il y a eu des approvisionnements par camion-citerne en eau. Donc, et on le vit aussi dans notre chair par les grosses et fortes chaleurs qu'on peut avoir à Montpellier. Il faut savoir qu'en 2019, quand même, on a eu un pic de 46 degrés à Montpellier. Donc ils sont plutôt ils cherchent des solutions en fait, les politiques, et les élus sont plutôt friands, en tout cas nous, de l'expérimentation qu'on a menée, et on est amené maintenant à discuter plus régulièrement. Parfois on nous sollicite sur des marchés publics, sur des logiques de concertation, et on essaye de faire en sorte d'y mêler toujours ces savoirs sensibles des habitants pour les faire remonter au niveau du politique. C'est un peu l'objectif qu'on s'est donné. L'objectif, c'est pas d'être
un syndicat.
Gens, ou de former les gens à être plus sensibles. En fait, les gens, ils le sont sensibles. Quand on pose la question aux gens de la relation avec leur rivière ou avec le fleuve, il y a une parole qui se libère qui est très très simple en fait. Donc en fait, les gens, ils sont très sensibles. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette sensibilité. Est-ce qu'on la met à l'ordre du jour de nos réunions politiques et nos réunions de gestion du fleuve?
Est-ce que toute cette démarche a augmenté peut-être les attachements au Lez, à ce fleuve?
Je ne sais pas si ça les a augmentés. Moi, encore une fois, je pense qu'ils existent, en fait. Quand on est allé questionner les gens, le seul problème, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'aller leur demander quel est leur attachement à ce fleuve, leur attachement à leur territoire, et de quoi il est fait. Et d'aller creuser, forer cette question-là, et d'aller faire en sorte de donner de l'importance à cette question-là. Donc je ne crois pas qu'on a révélé ou réveillé des attachements. On les révèle plus et on les porte un peu plus haut pour voir comment on peut s'en servir et s'appuyer dessus en fait, pour mieux gérer nos espaces naturels, et puis aussi surtout pour les associer, ces habitants. Et puis essayer de faire l'expérimentation d'associer les entités naturelles à nos décisions. C'est ça, en fait, hein, au cœur du sujet de cette négociation, c'est d'associer les éléments naturels. Ça peut être une forêt, un étang, une zone humide, une mer, que sais-je, des poissons. Et nous, on mène tout un tas d'expérimentations aujourd'hui, et on continue de mener des expérimentations à Montpellier et ailleurs, avec un parc naturel, un parc marin, etc., etc.
D'un côté, il y a des habitants, ceux qui sont attachés à ce cours d'eau. Et puis de côté, voilà, on dirait qu'il y a cette muraille avec ces politiques qui doivent être décisionnaires a priori. Mais est-ce que voilà, vous réfléchissez aussi à des modes de gouvernance qui permettraient de mieux associer tous ceux qui sont réellement attachés à cette rivière?
On y réfléchit et puis on expérimente. On a expérimenté il n'y a pas longtemps à la faveur d'un marché public à Montpellier pour une concertation sur un espace qui appartenait plutôt aux zoos et qui va être remis à l'espace public. Et il y avait les mots sensibles, concertation sensible, etc. Donc on en a profité pour mener une expérimentation et un atelier pour prendre la vie de la nature. Et en fait, la question, c'est pas de savoir si les arbres vont nous dire ça ou ça. Bien sûr, ils ne sont pas dotés de parole. La question, c'est pas de savoir si qu'est-ce qu'ils vont nous dire, en fait. La question, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre à compléter des avis techniques par ce type-là d'avis. Et de nous, de commencer cette école un peu de... Ce n'est pas une école de la sensibilité. Moi, je pense que c'est plutôt, ça serait plutôt une sorte d'école d'interprétation du vivant.
D'accord. Ça veut dire que le citoyen devient l'interprète du vivant en plus du scientifique qui, lui, a ses compétences, et que tout ça peut se mêler. On ne peut pas faire ça chacun de son côté, quoi.
Ouais, c'est très juste ce que vous dites. C'est en plus du scientifique, de la technique. Nous, on ne veut pas opposer les savoirs. On veut compléter les savoirs par ces savoirs sensibles, vernaculaires, vécus. Il n'est pas du tout question de les opposer, en fait. Ils ne sont pas mieux qu'un autre, mieux que les avis scientifiques. On a besoin de tout le monde, en fait, autour de la table. Mais on a besoin que tout le monde y soit autour de la table.
Ok. On est devant cette rivière, le Scorff, à Pont-Scorff, aujourd'hui, Cléguer. Quel regard vous portez sur cette démarche des atlas socioculturels menée ici en Bretagne?
elle est super inspirante, cette démarche des atlas culturels des rivières, tellement qu'on est en train de mettre en place un atlas, nous aussi, relationnel, culturel, sur une rivière qui s'appelle la Mausson, à Montpellier, et qui traverse d'ailleurs le quartier, le gros quartier populaire de Montpellier. C'est aussi ça qui nous intéressait dans cet atlas, pour mener cet atlas culturel, c'est de prendre l'avis des gens qui habitent dans ces quartiers. Et moi, j'ai été très surpris en discutant avec un papa sur le bord d'un stade de foot où mon fils jouait dans ce quartier populaire.
Stade de la Mausson.
Le stade de la Mausson, exactement. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais alors, la Mausson, vous y allez, etc. Et le gars, qui avait mon âge, une cinquantaine d'années, ne savait plus s'arrêter pour raconter toutes les histoires qu'il a vécues enfant avec ce fleuve, cette rivière. Et ça, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait, d'aller creuser cette question-là et de faire remonter ça. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on dit sur les quartiers populaires? C'est dégueulasse, ils jettent des bouteilles en plastique, ils bouffent n'importe quoi, etc., etc. Ils jettent des motos dans la rivière, etc. Oui, c'est vrai, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Donc très très inspirante pour nous et on va très certainement et j'espère poursuivre nos relations avec Eaux et Rivières de Bretagne pour comprendre comment on arrive à percer sur cette question de la gouvernance de nos espaces naturels et pour voir comment quels sont les leviers mais aussi les plafonds de verre qu'on n'arriverait pas, comment on pourrait travailler ensemble pour faire mieux, pour continuer, pour associer plus possible des élus, des habitants, des gestionnaires.
Comme le dit votre collègue de Marseille, il y a une histoire de méthodo finalement à trouver à partir de maintenant.
Exactement, il y a de la méthodo, il y a des... comment on s'appuie, nous on s'appuie pas mal sur les fictions, parce qu'on pense que ça nous permet de sortir un peu de la réalité un peu brutale des conflits ou des problématiques liées aux rivières, pollution, etc. En fait, il faut qu'on se détache un peu, il faut qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on fasse des pas de côté, mais qu'on joue un peu comme les enfants. Viens, on dirait qu'il y a un service public de la relation au milieu de vie qui existe, et viens, on dirait qu'on pourrait prendre l'avis de la nature, on pourrait dire qu'on formerait un groupe des interprètes du vivant, qu'on pourrait mener des médiations sensibles. Bien, on dirait qu'on pourrait faire des célébrations. On dirait qu'on célébrerait les travaux de renaturation et de restauration de la rivière et qu'on restaurerait aussi notre lien par là. À la rivière. Et on aime bien jouer à ça. Et donc, effectivement, posons ces méthodos très, peut-être très sensibles ou un peu fofolles, mais artistiques, mais posons-les, ces méthodos, comme des grands cadres administratifs et pour tendre, justement, comme le dit mon collègue Pascal Ferren, tendre vers une école de l'administration sensible du vivant, quoi.